Dostojewski, nie toczka, Lezvanova. Je ne me rappelle pas mon père, il mourut quand j'avais 2 ans. Ma mère se remaria. Ce second mariage, quoique contracté par amour, fut pour elle la source de bien des douleurs. Mon beau-père était musicien. Sa destinée fut des plus extraordinaires. C'était l'homme le plus étrange et le plus délicieux que j'ai jamais connu. Son influence sur mes premières impressions d'enfant a été si forte qu'elle a marqué de son empreinte toute ma vie. Pour que mon récit soit compréhensible, je commencerai tout d'abord par donner sa biographie. Tout ce que je dirai de lui, je l'ai appris plus tard par le célèbre violoniste B, qui fut le camarade et l'ami très intime de mon beau-père dans sa jeunesse. Mon beau-père s'appelait Efimov. Il était né dans un village appartenant à un opulent propriétaire. Il était le fils d'un très grand pauvre musicien qui, après de longs voyages, s'était fixé sur ses terres de ce propriétaire et s'était engagé dans son orchestre. Ce propriétaire, qui vivait très luxueusement, aimait par-dessus tout et passionnément la musique. On raconte que cet homme, qui ne quittait jamais ses terres, même pour aller à Moscou, décida tout à coup un jour de se rendre dans une ville d'eau de l'étranger pour quelques semaines, dans le but unique d'entendre un célèbre violoniste qui, au dire des journaux, devait y donner 3 concerts. Lui-même possédait un assez bon orchestre, à l'entretien duquel il consacrait presque tous ses revenus. Mon beau-père entra dans cet orchestre comme clarinettiste. Il avait 22 ans quand il fit la connaissance d'un homme étrange. Dans le même district vivait un comte qui avait été jadis à la tête d'une grosse fortune, mais que ruinait la manie d'avoir un théâtre. Il lui arriva d'abord à renvoyer, pour sa mauvaise conduite, son chef d'orchestre d'origine italienne. Ce chef d'orchestre était en effet un triste individu. À peine privé de son emploi, il perdit aussitôt toute retenue. Il se mit à fréquenter les débits de la ville, à boire. Il en arriva même à mendier et lui devint désormais impossible de trouver à se placer dans la province. Et c'est avec cet homme que mon beau-père se lia d'amitié. Cette camaraderie paraissait aussi inexplicable qu'extraordinaire, car personne ne remarquait le moindre changement de conduite chez mon beau-père par suite de l'exemple de son compagnon, si bien que le propriétaire, qui d'abord lui avait défendu de fréquenter l'italien, en était venu à fermer les yeux sur leur amitié. Enfin, le chef d'orchestre mourut subitement. Les paysans trouvèrent un matin son cadavre dans un fossé près d'un barrage. On ouvrit une enquête dont le résultat fut que l'Italien était mort d'apoplexie. Tout ce qu'il possédait se trouvait chez mon beau-père, qui présenta aussitôt la preuve de son droit indiscutable à l'héritage. Le défunt avait laissé un papier déclarant qu'en cas de décès, Efimov était son seul héritier. L'héritage se composait d'un habit noir, que le défunt conservait comme la prunelle de ses yeux parce qu'il gardait toujours l'espoir de trouver une nouvelle place, et d'un violon, d'apparence assez ordinaire. Personne ne contesta cet héritage. Mais, quelque temps après, le propriétaire recevait la visite du premier violoniste du comte, porteur d'une lettre de celui-ci. Dans cette lettre, le comte priait, suppliait Efimov de lui vendre le violon que lui avait laissé l'Italien, car il désirait vivement acquérir l'instrument pour son orchestre. Il en offrait 3 000 roubles, et ajoutait qu'il avait déjà envoyé chercher Edgor Efimov pour conclure ce marché personnellement avec lui, mais que celui-ci refusait obstinément de se rendre à son invitation. Le comte disait en terminant que la somme qu'il proposait représentait le prix réel du violon et que dans l'obstination des Fimov, il voyait quelque chose d'offensant pour lui. Le soupçon du désir de profiter de sa simplicité, de son ignorance. C'est pourquoi il demandait au propriétaire d'intervenir. Le propriétaire fit aussitôt mander mon beau-père. « Pourquoi ne veux-tu pas vendre ton violon ?» lui demanda-t-il. « Tu n'en as pas besoin. On te propose 3 000 roubles, c'est un beau prix, et tu n'es qu'un sot, si tu penses qu'on t'en donnera davantage. Le comte n'a pas l'intention de te tromper. » Et Fimov répondit qu'il ne se rendrait pas de sa propre volonté chez le comte, que si son maître l'y envoyait, il obéirait à son ordre, mais qu'il ne viendrait pas son violon au comte, que si on se proposait de le lui prendre de force, là encore son maître était libre. Cette réponse toucha le maître à son point le plus sensible. Il se flattait en effet de savoir se conduire envers ses musiciens qui tous, disait-il, sans exception, étaient de véritables artistes grâce à qui son orchestre non seulement était meilleur que celui du comte, mais pouvait rivaliser avec celui de la capitale. « Bon, répondit le propriétaire, je ferai savoir au comte que tu ne veux pas vendre ton violon, que tu n'as aucun désir de le vendre, car c'est ton droit absolu de le vendre ou de ne pas le vendre, comprends-tu ? Mais permets-moi de te demander quel besoin tu as de ce violon. Ton instrument à toi, c'est la clarinette dont tu joues reste assez mal. Cède-moi le violon, je te donnerai les 3 000. » Qui aurait pu se douter que c'est un instrument d'une telle valeur ? Efimov sourit. « Non, monsieur, je ne vous le vendrai pas, » répondit-il. « Sans doute, vous avez le pouvoir. Est-ce que je te persécute ? Est-ce que je te contrains ?» s'écria le seigneur hors de lui, d'autant plus que cette discussion avait lieu en présence du violoniste du comte, qui pouvait conclure, d'après cette scène, que le sort des musiciens du propriétaire était peu enviable. « Va-t'en tout de suite, ingrat, que je ne te vois plus. » Qu'aurais-tu fait sans moi avec ta clarinette dont tu ne sais pas jouer ? Chez moi, tu es nourri, habillé, entretenu, tu reçois des appointements, tu es un artiste et tu ne veux pas le comprendre. Tu ne veux pas ? Bien, va-t'en. Et ne m'énerve pas davantage par ta présence. » Le propriétaire chassait toujours de devant ses yeux ce contre qui il se mettait en colère, car il craignait de ne pas rester maître de lui. Or, pour rien au monde, il n'eût voulu se comporter trop violemment envers un artiste, comme il appelait tous ses exécutants. Le marché ne fut donc pas conclu, et l'incident semblait ainsi terminé, quand tout à coup, un mois après, le violoniste du comte souleva une affaire très grave. Sous sa propre responsabilité, il porta contre mon beau-père une dénonciation où il tentait d'établir que mon beau-père était l'auteur de la mort de l'Italien, qu'il aurait assassiné dans un but de lucre afin de se rendre possesseur du riche héritage. Le dénonciateur déclarait que le testament avait été écrit par contrainte et se faisait fort de produire des témoins pour soutenir son accusation. Ni les supplications, ni les exhortations du comte et du propriétaire qui intercédèrent pour mon beau-père ne purent décider le violoniste à renoncer à son accusation. On lui fit valoir que l'examen médical auquel avait été soumis le corps du défunt chef d'orchestre était tout à fait en règle, qu'il se heurtait à l'évidence, aveuglé peut-être par sa colère personnelle et son dépit de n'avoir pu entrer en possession du précieux instrument qu'on voulait acheter pour lui. Le musicien tint bon. Il jurait qu'il avait raison, soutenait que l'apoplexie était due non à l'ivresse, mais à un empoisonnement, et il exigeait une nouvelle enquête. Au premier abord, ses raisons parurent sérieuses. On donna suite à sa dénonciation. Efimov fut arrêté et conduit à la prison de la ville. Toute la province s'intéressa à l'affaire. Celle-ci fut menée très rapidement et se termina par une inculpation en dénonciation calomnieuse contre le violoniste. On lui infligea une juste condamnation, mais jusqu'au bout il tint bon et affirma qu'il avait raison. Il finit cependant par avouer qu'il n'avait aucune preuve, que ses prétendues preuves étaient de son invention, mais qu'en inventant tout cela, il avait agi par déduction et que jusqu'à ce jour, bien qu'une nouvelle enquête eût été faite et que l'innocent d'Elimov eût été formellement reconnu, il restait convaincu que la mort du malheureux chef d'orchestre était bien le fait d'Efimov, qu'il avait tué, sinon en l'empoisonnant, du moins d'une façon quelconque. L'arrêt ne fut pas mis à exécution. Le musicien tomba soudain malade d'une inflammation du cerveau. Il devint fou et mourut à l'hôpital de la prison. Durant toute cette affaire, l'attitude du propriétaire avait été des plus généreuses. Il multiplia les démarches pour mon beau-père comme s'il se fût agi de son propre fils. Plusieurs fois, il alla le visiter dans la prison pour le consoler et lui remettre de l'argent. Ayant appris qu'Efimov fumait, il lui apporta d'excellents cigares, et quand mon beau-père fut reconnu innocent, il donna une fête à tout l'orchestre. Le propriétaire regardait l'affaire d'Efimov comme intéressant tout l'orchestre parce qu'il tenait à la bonne conduite de ses musiciens, au moins autant, sinon plus qu'à leur talent. Toute une année s'écoula. Soudain, le bruit courut qu'au chef-lieu de la province venait d'arriver un violoniste très connu, un Français, qui avait l'intention de donner plusieurs concerts. Aussitôt, le propriétaire fit les démarches afin de le faire venir chez lui pour quelques jours. L'affaire s'arrangea, le Français promit de venir. Tout était déjà prêt pour son arrivée. On avait invité presque tout le district, quand tout à coup les choses se gâtèrent. Un matin, on rapporta qu'Efimov avait disparu. On entreprit des recherches qui demeurèrent vaines. L'orchestre était dans une situation très embarrassante. Une clarinette manquait. Mais soudain, 3 jours après la disparition d'Efimov, le propriétaire recevait du Français une lettre dans laquelle celui-ci se dégageait en termes mécontents de l'invitation qu'il avait acceptée, ajoutant, sans doute par allusion, que dorénavant il serait très prudent dans ses rapports avec les amateurs ayant leur propre orchestre, qu'il n'était guère encourageant de voir un véritable talent soumis aux ordres d'un homme qui n'en connaissait pas la valeur, et qu'enfin, l'exemple d'Efimov, un véritable artiste et le meilleur violoniste qu'il eût rencontré en Russie, était une preuve évidente de la justesse de ses paroles. Après avoir lu cette lettre, le propriétaire tomba dans un profond étonnement. Il était peiné jusqu'au fond de l'âme. Comment Efimov, ce même Efimov auquel il s'était tant intéressé, auquel il avait prodigué tant de bienfaits, cet Efimov l'avait calomnié honteusement, sans pitié, devant un artiste européen, devant un homme dont l'opinion lui était si précieuse. En outre, cette lettre lui paraissait inexplicable sous un autre rapport. On lui écrivait qu'Efimov était un artiste d'un vrai talent, un violoniste, et qu'on ne savait pas l'apprécier, qu'on le forçait à jouer d'un autre instrument. Tout cela frappa tellement le propriétaire qu'il résolut de partir sur le champ pour la ville afin de voir le Français. Mais juste à ce moment, il reçut un billet du comte qui lui demandait de venir immédiatement chez lui. Il était, disait-il, au courant de toute l'histoire. Le virtuose français se trouvait maintenant chez lui avec Efimov, et l'audace, les calomnies de ce dernier l'avaient tellement indigné qu'il avait ordonné de le retenir. Le comte ajoutait que la présence du propriétaire était nécessaire encore par cette considération que l'accusation d'Efimov le touchait lui-même personnellement, que cette affaire était très importante et qu'il fallait la tirer au clair le plus vite possible. Le propriétaire se rendit immédiatement chez le comte, où il fit aussitôt connaissance avec le français. Il expliqua à celui-ci toute l'histoire de mon beau-père, ajoutant qu'il n'avait jamais soupçonné chez Efimov un si grand talent, et qu'au contraire, Efimov s'était toujours montré un mauvais clarinettiste, et qu'il apprenait pour la première fois que le musicien qu'il avait quitté était un violoniste. Il déclara qu'Efimov était libre, qu'il avait toujours joui de son indépendance absolue, et qu'il pouvait s'en aller quand il voudrait, si en effet il se sentait opprimé. Le français se montra extrêmement étonné. On fit venir Efimov. Il était méconnaissable. Il se conduisit honteusement, répondit avec ironie et maintint l'exactitude de tout ce qu'il avait raconté aux Français. Tout cela irrita le comte à l'extrême. Il déclara tout net à mon beau-père qu'il était un lâche calomniateur digne de la plus ignominieuse punition. Bon, ne vous inquiétez pas, votre Excellence. « Je vous connais déjà suffisamment, » répondit mon beau-père. « C'est grâce à vous que j'ai failli être jugé comme assassin. Je sais qui a poussé Alexis Nikiforovitch, votre ancien musicien, à me dénoncer. » Le comte écumait de colère à l'ouïe d'une aussi terrible accusation. Il se contenait à grand-peine. Un fonctionnaire venu chez le comte pour une autre affaire et qui se trouvait par hasard dans le salon, déclara qu'on ne pouvait laisser cela sans suite, que la grossièreté d'Efimov comportait une accusation odieuse, fausse, calomniatrice, et qu'il demandait respectueusement la permission de l'arrêter sur le champ, dans la maison même du comte. Le français était également indigné et exprima son étonnement d'une ingratitude aussi noire. Alors mon beau-père s'emporta, et répondit que la meilleure punition était le tribunal, que même une nouvelle enquête criminelle était préalable à la vie qu'il avait menée jusqu'à ce jour en jouant dans l'orchestre d'un seigneur qui n'avait pas eu la possibilité de quitter à cause de sa misère. Et il sortit sur ses mots du salon, accompagné des gens qui l'avaient arrêté. On l'enferma dans une chambre reculée et on le menaça de l'expédier en ville dès le lendemain. Vers minuit, la porte de la chambre du prisonnier s'ouvrit. Le propriétaire entra. Il était en robe de chambre et en pantoufles et tenait à la main une lanterne allumée. Il n'avait évidemment pas pu s'endormir et de pénibles réflexions l'avaient forcé à quitter son lit. Efimov ne dormait pas. Il regarda avec étonnement son visiteur. Celui-ci posa sa lanterne et, très ému, s'assit sur une chaise en face de lui. « Igor, lui dit-il, mais pourquoi m'as-tu offensé ainsi ?» Efimov ne répondit pas. Le propriétaire répéta sa question. Un sentiment profond, une angoisse étrange vibrait dans ses paroles. Mais Dieu sait pourquoi je vous ai offensé ainsi, monsieur, répondit enfin mon beau-père en faisant un geste de la main. C'est comme si le diable m'avait poussé, je ne sais pas moi-même. Ce n'était pas une vie chez vous. Le diable lui-même s'est attaché à moi. « Igor, reprit alors le propriétaire, retourne chez moi et j'oublierai tout, je te pardonnerai tout. Écoute, tu seras le premier parmi mes musiciens et je te donnerai des appointements supérieurs à ceux des autres. Non, monsieur, non, ne me parlez pas. Je ne puis pas vivre chez vous. Je vous dis que c'est le diable qui s'est attaché à moi. J'incendierais votre maison si je restais. Parfois, une telle angoisse me saisit qu'il vaudrait mieux pour moi n'être pas né. Maintenant, je ne puis même pas répondre de moi. Non, monsieur, non, non, il vaut mieux me laisser. Tout cela, c'est depuis que ce diable s'est lié d'amitié avec moi. Mais qui? Demanda le propriétaire. Mais celui qui a crevé comme un chien, ce maudit Italien. Mais c'est lui, Igor, qui t'a appris à jouer. Oui, il m'a appris plusieurs choses pour ma perte. Mieux vaudrait ne l'avoir jamais connu. Est-ce que c'était un tel maître sur le violon, Igor? Non, on lui-même jouait mal, mais il enseignait bien. J'ai appris tout. Il me montrait seulement. Il aurait mieux valu pour moi que ma main tombât des échecs plutôt que d'apprendre cet art. Maintenant, je ne sais pas moi-même ce que je veux. Demandez-moi, monsieur, Igor, qu'est-ce que tu désires? Je puis te donner tout? Eh bien, monsieur, je ne vous dirai pas un mot de réponse parce que je ne sais pas moi-même ce que je désire. Non, monsieur, je vous le dis encore une fois, il vaut mieux me laisser. Je ferai quelque chose pour qu'on m'envoie très loin et que ce soit fini. Igor, dit le propriétaire après un moment de silence, je ne te laisserai pas ainsi. Si tu ne veux pas venir chez moi, soit tu es libre, je ne puis te retenir, mais je ne m'en irai pas ainsi. Joue-moi quelque chose sur ton violon. Igor, joue. Je t'en supplie, joue. Ce n'est pas un ordre que je te donne, tu comprends, je ne te force pas, je te supplie, joue, Igor. Au nom de Dieu, joue-moi ce que tu as joué aux Français. Tu es obstiné, mais moi aussi. J'ai aussi mon caractère, Igor. Je ne vivrai pas tant que tu n'auras pas joué de bonne volonté ce que tu as joué aux Français. Soit, dit Efimov. Je m'étais juré, monsieur, de ne jamais jouer devant vous, mais maintenant mon cœur faiblit. Je jouerai. Mais ce sera pour la première et la dernière fois, et jamais plus, monsieur, vous ne m'entendrez jouer. Si même vous me promettiez 1 000 roubles. Il prit alors son violon et se mit à jouer ses variations sur des chansons russes. B disait que ces variations étaient sa première œuvre pour violon et sa meilleure, et qu'il n'avait jamais plus joué aussi bien et avec une telle inspiration. Le propriétaire, qui du reste ne pouvait écouter avec indifférence la musique, pleurait à chaudes larmes. Quand ce fut terminé, il se leva de sa chaise, prit 300 roubles qu'il tendit à mon beau-père en lui disant: Va, Igor, je te ferai sortir d'ici et j'arrangerai tout avec le comte. Mais écoute, ne te rencontre plus avec moi. La route est large devant toi, et si nous nous heurtons sur cette route, cela ira mal et pour toi et pour moi. Adieu donc. Ah, encore un conseil pour ton avenir, un seul. Ne bois pas et travaille, travaille sans relâche et ne deviens pas orgueilleux. Je te parle comme le ferait un père. Prends garde, je te le répète encore une fois, travaille et fuis l'eau-de-vie, parce que si tu bois une fois à la suite de quelques déceptions, oh, et tu en auras beaucoup, alors tu seras perdu, tout ira au diable et quelque jour on te trouvera peut-être dans un fossé comme ton Italien. Allez maintenant, adieu, allez, attends, embrasse-moi. Ils s'embrassèrent, puis mon beau-père sortit. Il était libre. Aussitôt en liberté, il s'empressa de dépenser les 300 roubles dans les petites villes voisines en compagnie de chenapans, avec lesquels il se liait. À la fin, resté seul sans le sou et sans aucune protection, il dut s'engager dans le misérable orchestre d'un petit théâtre ambulant en qualité de premier et peut-être unique violon. Tout cela ne concordait pas précisément avec ses intentions premières, qui étaient de se rendre le plus vite possible à Pétersbourg pour y étudier, y trouver une bonne place et devenir un artiste de premier ordre. Mais la vie dans le petit orchestre n'allait pas toute seule. Mon beau-père se disputa bientôt avec l'entrepreneur du théâtre ambulant et le quitta. Alors, son courage l'abandonna, et même il se résolut à une mesure désespérée qui blessait cruellement son orgueil. Il écrivit au propriétaire, lui peignit sa situation et lui demanda de l'argent. La lettre était écrite sur un ton assez indépendant. Il n'obtint aucune réponse. Il écrivit alors une seconde lettre dans laquelle, en termes fort humbles, appelant le propriétaire son bienfaiteur et lui donnant le titre de vrai connaisseur de l'art, il le priait à nouveau de lui venir en aide. Enfin, la réponse arriva. Le propriétaire envoyait 100 roubles, accompagné de quelques lignes de la main du valet de chambre, parmi lesquels il le priait de s'abstenir à l'avenir de toute demande. Comme mon beau-père eut cet argent, il voulut aussitôt partir pour Pétersbourg. Mais, une fois ses dettes payées, il lui restait si peu de choses qu'il ne pouvait plus être question de voyage. Il demeura donc en province. De nouveau, il rentra dans un petit orchestre dont il ne s'arrangea pas et qu'il abandonna bientôt. Et, passant ainsi d'une place dans l'autre, toujours avec l'idée d'aller sans retard à Pétersbourg, il resta en province 6 années entières. Enfin, une sorte d'horreur le saisit. Il remarqua avec désespoir combien son talent avait souffert, écrasé de tous côtés par sa vie désordonnée et misérable. Et un beau matin, il quitta son entrepreneur, prit son violon et se rendit à Pétersbourg, vivant presque d'aumône pour subvenir aux frais de la route. Il s'installa quelque part dans un grenier, et c'est alors qu'il fit la connaissance de B, qui arrivait d'Allemagne et rêvait aussi de faire une carrière. Bientôt, ils se lièrent d'amitié, et B, jusqu'à présent, se rappelle avec une profonde émotion cette liaison. Tous deux étaient jeunes, tous deux avaient les mêmes espérances et le même but. Mais B était encore dans la première jeunesse, il avait encore enduré très peu de misère et de souffrance. En outre, avant tout, il était allemand et marchait vers son but obstinément, systématiquement, avec la certitude absolue de ses forces, en calculant presque d'avance ce qu'il était capable de donner. Son camarade, au contraire, avait déjà 30 ans. Il était fatigué, harassé, avait perdu confiance. En même temps, ses premières énergies s'étaient effritées pendant les 7 années qu'il avait dû, pour gagner son pain, travailler dans de petits théâtres de province ou dans des orchestres de propriétaires ruraux. Une seule idée l'avait soutenu, sortir enfin de cette impasse et économiser assez d'argent pour aller à Pétersbourg. Mais c'était une idée vague, obscure, une sorte d'appel intérieur qui, avec les années, avait perdu de sa netteté, si bien qu'en partant pour Pétersbourg, il semblait n'agir plus que par l'inertie de son désir éternel de ce voyage, et ne savait plus trop lui-même ce qu'il ferait dans la capitale. Son enthousiasme était saccadé, irrégulier, bilieux, comme s'il voulait se tromper lui-même et se convaincre qu'en lui la force première, l'ardeur, l'inspiration n'était pas encore épuisé. Cet enthousiasme perpétuel frappa B, qui était un homme froid, méthodique. Il en était aveuglé, saluait mon beau-père comme le futur grand génie musical. Il ne pouvait se représenter autrement l'avenir de son camarade. Mais bientôt les yeux de B se dessillèrent et il perçut la vérité. Il vit clairement que toute cette fièvre, toute cette impatience n'était autre chose que le désespoir du talent perdu. Plus encore que ce talent lui-même n'avait peut-être jamais été très grand, qu'il y avait là beaucoup d'aveuglement, d'infatuation, de contentement de soi, d'imagination et le rêve perpétuel en son propre génie. Mais, racontait B, pouvais-je ne pas être étonné par la nature étrange de mon camarade ? Devant moi se livrait la lutte désespérée, fiévreuse, de la volonté tendue à l'extrême contre la faiblesse intérieure. Le malheureux, durant 7 années, s'était repu du rêve de sa gloire future à tel point qu'il n'avait même pas remarqué comment il perdait les notions les plus élémentaires de notre art, même jusqu'à la technique ordinaire de la musique. Et cependant, dans son imagination désordonnée, naissaient à chaque moment des plans colossaux pour l'avenir. Non content de vouloir être un génie de premier ordre, un des plus grands violonistes au monde, non content de se croire un pareil génie, il voulait en outre devenir compositeur, bien qu'ignorant tout du contrepoint. Mais ce qui m'étonnait le plus, ajoutait B, c'est qu'en dépit de son impuissance, de ses connaissances minimes de la technique musicale, il y avait chez cet homme une compréhension profonde, claire et on peut dire intuitive de l'art. Il le sentait si fortement, le comprenait si bien, qu'il n'est pas étonnant qu'il se soit égaré dans son propre jugement sur lui-même et se soit pris, au lieu d'un profond et instinctif amoureux de l'art, pour le pontife de l'art lui-même, pour un génie. Parfois, il parvenait dans son langage primitif, simple, étranger à toute science, à énoncer des vérités si profondes que j'en étais stupéfait et ne pouvais comprendre comment il devinait tout cela, n'ayant jamais rien lu, rien appris. Et, a ajouté B, dans mon propre perfectionnement, je lui dois beaucoup. Quant à moi, continuait B, j'étais tout à fait tranquille sur mon sort. Moi aussi, j'aimais passionnément mon art, mais je savais dès le commencement de ma carrière que je resterais, au sens littéral du mot, un ouvrier de l'art. En revanche, je suis fier de ne pas avoir enfoui, comme l'esclave paresseux, ce que m'avait donné la nature et au contraire de l'avoir augmenté considérablement. Et si on loue mon jeu impeccable, si l'on vante ma technique, tout cela je le dois au travail ininterrompu, à la conscience nette de mes forces, à l'éloignement que j'ai toujours pour l'ambition, la satisfaction de soi-même et la paresse, conséquence de cette satisfaction. B, à son tour, essaya de donner des conseils à mon camarade auquel tout d'abord il s'était soumis. Mais celui-ci s'en montra indisposé. Il y eut un froid entre eux. Bientôt B remarqua que son camarade devenait de plus en plus apathique. L'inquiétude et l'ennui l'assaillaient de plus en plus fréquemment. Ses élans d'enthousiasme devenaient plus rares et une tristesse morne, déprimante, les suivait. Enfin, Elfimov commença à délaisser son violon. Il se passait des semaines entières sans qu'il y touchât. Il n'était pas loin de la chute définitive et bientôt le malheureux sombra dans le vice. Ce contre quoi le propriétaire l'avait mis en garde était arrivé. Il s'était mis à boire immodérément. B le considérait avec épouvante. Ses conseils n'agissaient plus et il avait peur de dire le moindre mot. Peu à peu, Efimov en arriva à un cynisme extrême. Il n'éprouvait aucune honte à vivre au crochet de B, se conduisant même comme si cela c'était son droit absolu. Cependant, les moyens d'existence s'épuisaient. B, avec quelques leçons, faisait des soirées chez des commerçants, des Allemands, des employés, qui n'étaient pas bien riches, mais cependant payaient quelque peu. Et Fibov affectait de ne pas même remarquer la misère de son camarade. Il se comportait insolemment envers lui et restait des semaines entières sans daigner lui adresser la parole. Un jour, B lui fit observer de la façon la plus douce qu'il ferait bien de ne pas trop négliger son violon afin de ne pas perdre tout à fait la main. Efimov se fâcha sérieusement et déclara qu'il ne toucherait jamais plus à son violon, comme s'il s'imaginait qu'on allait l'en supplier à deux genoux. Une autre fois, B, ayant besoin d'un camarade pour jouer dans une soirée, en fit la proposition à Efimov. Celui-ci devint furieux. Il déclara qu'il n'était pas un violoniste de la rue, et n'était pas aussi lâche que B pour déshonorer le grand art en jouant devant de vils boutiquiers qui ne comprendraient rien à son jeu et à son talent. B ne répondit point. Mais Efimov, réfléchissant à cette invitation, en l'absence de son camarade qui était allé jouer, s'imagina que B avait eu le dessein de lui faire sentir qu'il vivait à ses dépens et que c'était une façon de lui dire qu'il eût à gagner sa vie. Quand B rentra, Efimov, tout à coup, se mit à lui reprocher la lâcheté de son acte et déclara qu'il ne resterait pas une minute de plus avec lui. Il disparut en effet pour deux jours. Mais il revint le troisième comme si rien ne s'était passé et la vie reprit comme auparavant. Ce n'est que l'habitude, l'amitié et aussi la pitié qu'on ressent pour l'homme qui se noie qui empêchèrent B de mettre aussitôt un terme à cette vie désordonnée et de se séparer pour toujours de son camarade. Mais ils finirent cependant par se quitter. La fortune souriait à B. Il s'était acquis une haute protection et avait eu la chance de donner un brillant concert. À cette époque, il était déjà un admirable artiste et sa renommée, qui grandissait rapidement, lui valut une place dans l'orchestre de l'opéra où il se tailla bientôt un succès tout à fait mérité. Quand il se sépara d'Efimov, il lui remit de l'argent et le supplia les larmes aux yeux de rentrer dans le droit chemin. B ne peut même maintenant penser à lui sans un sentiment particulier. Son amitié avec Efimov demeure l'une des impressions les plus profondes de sa jeunesse. Ils avaient commencé leur carrière ensemble. Ils s'étaient attachés si profondément l'un à l'autre que l'étrangeté, les défauts même les plus grossiers d'Efimov, le rendait encore plus cher à B. B comprenait Efimov. Il lisait en lui et pressentait comment tout cela se terminerait. Au moment de se séparer, ils s'embrassèrent et tous deux pleurèrent. Efimov, à travers ses larmes et ses sanglots, se mit à crier qu'il était un homme perdu, un malheureux. Qu'il le savait depuis longtemps, mais que c'était seulement maintenant qu'il le voyait clairement. « Je n'ai pas de talent, » conclut-il en devenant pâle comme un mort. B était très ému. « Écoute, Egor Pietrovitch, » lui dit-il, « qu'est-ce que tu fais de toi? Mais tu te perds seulement avec ton désespoir. Tu n'as ni patience ni courage. Maintenant, dans un accès de tristesse, tu dis que tu n'as pas de talent. Mais ce n'est pas vrai, tu as du talent. Je t'assure que tu en as. Je ne vois rien qu'à la façon dont tu sens et comprends l'art. Je te le prouverai par toute la vie. Tu m'as raconté ta vie d'autrefois. À cette époque aussi, le désespoir te visitait sans que tu t'en rendisses compte. À cette époque aussi, ton premier maître, cet homme étrange dont tu m'as tant parlé, a éveillé en toi pour la première fois l'amour de l'art et a deviné ton talent. Tu l'as senti alors aussi fortement que maintenant. Mais tu ne savais pas ce qui se passait en toi. Tu ne pouvais pas vivre dans la maison du propriétaire et tu ne savais toi-même ce que tu désirais. Ton maître est mort trop tôt. Il t'a laissé seulement avec des aspirations vagues et surtout, il ne t'a pas expliqué toi-même. Tu sentais le besoin d'une autre route plus large. Tu pressentais que notre but était destiné, mais tu ne comprenais pas comment tout cela se ferait et dans ton angoisse, tu as haï tout ce qui t'entourait alors. Tes 6 années de misère ne sont pas perdues. Tu as travaillé, pensé, tu as reconnu et toi-même et tes forces. Tu comprends maintenant l'art et ta destination. Mon ami, il faut avoir de la patience et du courage. Un sort plus envié que le mien t'est réservé. Tu es 100 fois plus artiste que moi. Mais que Dieu te donne même la 10e partie de ma patience. Travaille, ne bois pas. Comme te le disait ton bon propriétaire et principalement, commence par l'ABC. Qu'est-ce qui te tourmente? La pauvreté? La misère? Mais la pauvreté et la misère forment l'artiste. Elles sont inséparables des débuts. Maintenant, personne n'a encore besoin de toi. Personne ne veut te connaître. Ainsi va le monde. Attends. Ce sera autre chose quand on saura que tu as du talent. L'envie, la malignité et surtout la bêtise t'opprimeront plus fortement que la misère. Le talent a besoin de sympathie, il faut qu'on le comprenne. Et toi, tu verras quels gens t'entoureront quand tu approcheras du but. Ils tâcheront de regarder avec mépris ce qui s'est élaboré en toi au prix d'un pénible travail, des privations, des nuits sans sommeil. Tes futurs camarades ne t'encourageront pas, ne te consoleront pas. Ils ne t'indiqueront pas ce qui est en toi bon et vrai. Avec une joie maligne, ils relèveront chacune de tes fautes. Ils te montreront précisément ce qu'il y a de mauvais en toi, ce en quoi tu te trompes. Et d'un air calme et méprisant, ils fêteront joyeusement chacune de tes erreurs, comme si quelqu'un était infaillible. Toi, tu es orgueilleux et souvent à tort. Il t'arrivera d'offenser une nullité qui a de l'amour propre, et alors malheur à toi. Tu seras seul et ils seront plusieurs. Ils te tueront à coups d'épingle. Moi-même, je commence à éprouver tout cela. Prends donc des forces dès maintenant. Tu n'es pas encore si pauvre. Tu peux encore vivre. Ne néglige pas les besognes grossières, fends du bois comme je l'ai fait un soir chez de pauvres gens. Mais tu es impatient, oui, l'impatience est ta maladie. Tu n'as pas assez de simplicité. Tu ruses trop, tu réfléchis trop. Tu fais trop travailler ta tête. Tu es audacieux en parole et lâche quand il faut prendre l'archet en main. Tu as beaucoup d'amour-propre et peu de hardiesse. Mais sois plus hardi et attends, apprends. Mais si tu ne comptes pas sur les forces, alors va au hasard. Tu as de la chaleur, du sentiment, peut-être arriveras-tu au but. Sinon, va quand même au hasard. En tout cas, tu ne perdras rien si le gars est trop grand. Vois-tu aussi, le hasard pour nous est une grande chose. Efimov écoutait son vieux camarade avec un attendrissement profond. À mesure qu'il parlait, la pâleur quittait ses joues qui se coloraient peu à peu. Ses yeux brillaient d'un feu inaccoutumé de hardiesse et d'espoir. Bientôt, cette noble hardiesse se transformait en audace, puis en son effronterie ordinaire, et tandis que B terminait son exhortation, Efimov ne l'écoutait déjà plus que distraitement et avec impatience. Cependant, il lui serra chaleureusement la main, le remercia, et bientôt, passant de l'humilité profonde et de la tristesse à la présomption et à l'orgueil extrême, il pria son ami de ne pas s'inquiétait pour lui, disant qu'il saurait arranger son existence, qu'il espérait trouver bientôt des protections, donner un concert et qu'alors il conquerrait d'un coup la gloire et la richesse. B haussa les épaules, mais ne contredit point son camarade. Ils se séparèrent. Oh, ce ne fut bien entendu pas pour longtemps. Efimov dépensa rapidement l'argent que lui avait donné B et vint lui en demander une deuxième fois, une troisième, une dixième. Enfin, B perdit patience et fit répondre qu'il n'était pas à la maison. Il perdit de vue Efimov.